Session du Père Marie-Dominique Philippe sur Métaphysique aujourd'hui, le 4 juillet l'an 2000 à Saint-Jean-d'Or.
Je vous disais hier en terminant que le drame humain, dans toute vie humaine, il y a des drames. Quand on vit en communauté, et quand on vit seul, on en invente. Et on se dédouble pour jouer un double personnage. Et il y a un drame qui se fait. Le génie d'Aristote, c'est d'avoir mis le drame du côté artistique. C'est très intéressant de voir ça, parce qu'il montre que le drame vient de l'imaginaire. C'est vrai, c'est l'imaginaire. La psychologie, elle est du côté de l'imaginaire. Et tout ce qui est dramatique provient de l'imaginaire où il faut être deux dans l'imaginaire. On n'est jamais seul parce qu'il n'y a pas de drame dans la solitude avec Dieu. Il n'y a pas de drame en Dieu. Et si on écarte le drame et le mal, le philosophe peut commencer à parler. Alors, on va dire, c'est inhumain. Non, parce que l'homme est au-dessus du drame. L'homme, c'est découvrir sa finalité, ce pourquoi il est fait. Et vous ne le trouvez pas dans le drame. Un drame, vous êtes en face de quelque chose qui vous échappe toujours. Autrement, il n'y aurait pas de drame. Ça vous échappe toujours. Il y a toujours un désir de possession de quelque chose dans nos vies. Et si vous supprimez tout ce qui est dramatique dans votre vie, pour certaines personnes, il n'y aurait plus rien. Elles vivent du drame. Il y a des personnes qui aiment ça. Soi-disant, elles vous diront « Moi, je suis pour la paix, pour la paix. » Et dès qu'il y a la paix, elles inventent un drame. Tout de suite. Parce que les ennemis, il y en a à tous les niveaux. On peut toujours les réveiller, les susciter. Et là, on cherche la vérité. On reverra ça, c'est intéressant de voir que pour certaines personnes, pour certains philosophes, et ça a commencé en France, et avant cela, il y avait des théologiens, et des théologiens qui ont inventé le Protervus. Protervus, le petit diable. Il vient tout le temps là, vous agitez. Alors, il ne voulait pas le dire, une tentation, il ne voulait pas dire. Alors, on a vu Protervus, l'ennemi qui était là, et qui permettait par le fait même de purifier. Au Moyen-Âge, on mettait dans les chapiteaux le démon, dans les chapiteaux, dans les colonnes, et avec les chapiteaux, on mettait là tout ce qui... Tout ce qui était double, qu'il fallait chasser. Pour reprendre une expérience simple et pure. Alors, vous voyez, quelqu'un comme Maritain a voulu l'expérience et l'intuition. Il faut l'intuition de l'être pour commencer. l'intuition de l'être. À droite, celles qui ont l'intuition de l'être, à gauche, celles qui ne l'ont pas. Je pourrais dire ça au début. Vous qui avez l'intuition de l'être, on va pouvoir faire de la métaphysique. Vous qui n'avez pas l'intuition de l'être, vous êtes au purgatoire. Attendez, ça viendra peut-être si vous espérez. Alors, quand on lui faisait l'objection que l'intuition de l'être, certains ne l'avaient pas, il dit, hein, mais il y en a qui ne font pas de métaphysique. Alors que la philosophie est naturelle. C'est le besoin de l'homme de faire de la philosophie. Vous voyez, quand la philosophie a été enseignée dans les facultés, ça n'a plus été la métaphysique. Ça a été une spécialité. Ça a été l'objet de thèse. Alors, les facultés la chassent. Actuellement. Et depuis assez longtemps. Descartes a voulu mettre au point de départ de la philosophie le doute. La suspicion. Le doute est... On se met à douter de soi et des autres. On soupçonne que les autres sont dans l'erreur tout de suite. Et soi-même, on est dans l'erreur possible. Et on a dit on ne peut pas se baser sur l'expérience, parce que l'expérience est quelquefois fausse. Quand vous regardez un bâton, il est droit, vous le mettez dans l'eau, il vous semble courbé. Votre expérience vous donne quelque chose de fou, parce que vous pouvez retirer le bâton de l'eau et faire une double expérience. Vous dites, il y en a une qui est fausse. Alors, il faudrait faire ça pour tout. Donc, votre expérience n'est pas vraie. Elle est source d'erreur. Elle est source d'erreur par l'imagination. C'est ça qu'on oublie. L'imagination, la folle du logis. Donc, il faut arriver à comprendre d'une façon très simple ce qu'est l'expérience. Quand je dis que la philosophie commence par l'expérience, c'est très vrai. Mais le mot expérience couvre un tas de réalités. Jusque Maritain, qui dit que l'intuition de l'être, c'est l'expérience. C'est comme l'expérience. Donc, vous voyez, vous avez une expérience qui peut devenir une intuition. Vous avez l'expérience de la brave personne qui achète des navets au marché, qui achète des carottes. Elle a l'expérience des carottes. Elle sait ce que c'est. Si elle demande des carottes et qu'on lui donne des pommes de terre, elle dit « Ah non, c'est pas ça que j'ai demandé. » Il y a une expérience. Il y a l'expérience de l'homme de la terre. Il y a l'expérience de la mère à l'égard de ses enfants, de ses petits-enfants. L'expérience couvre un tas de choses. Alors, quand on dit expérience, c'est très vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre que la philosophie est une question d'intelligence. Ah, c'est déjà quelque chose de particulier. Je dis que la philosophie, c'est ce qu'il y a de plus profond dans mon intelligence. Ce qu'il y a de plus pur dans mon intelligence. C'est retrouver une intelligence qui puisse, j'allais presque dire, se parler à elle-même. Très souvent, vous êtes dans l'imagination. Quand vous avez de la peine à dormir, l'imagination commence. et vous avez des schèmes, vous ne pouvez pas les quitter et qui vous empêchent de dormir. C'est une expérience de ne pas dormir, une expérience interne. Alors, tout de suite, je vois une différence entre deux espèces d'expériences. Et ça, c'est très important. L'expérience d'écrire. En fait, une expérience en écrivant. Et pour que cette expérience soit vraie, il faut que votre main soit là présente. Il faut un bic ou un stylo. Et puis on écrit. Vous faites une expérience d'écouter. Et pour écouter, il vous faut écrire. Pour être sûr de ne pas dormir. Alors, vous écrivez. Et quand vous êtes très fatigué, vous écrivez et puis vous vous endormez malgré ça. Autrement, quand vous êtes bien éveillé, vous écoutez. Écoutez, est-ce que c'est une expérience ? Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent plus écouter, qui ne savent plus entendre. Pourquoi on ne sait plus entendre ? Pourquoi on n'écoute plus ? Parce qu'on est préoccupé par quelque chose intérieur, soi-même. On est préoccupé par une idée fixe, une imagination qui nous saisit. Alors on n'écoute pas. J'ai une trop grande douleur. On n'écoute plus. Je suis dans la souffrance. Les gens me serrent la main, disent qu'ils sont avec moi. J'oublie tout, c'est ma souffrance. La souffrance est une expérience intérieure. Écouter est une expérience intérieure. Écrire ce que j'entends, prendre des notes, est une expérience différente. Parce qu'elle atteint quelque chose qui est en dehors de moi. Tandis que dans la souffrance, vous atteignez quelque chose qui est en vous. J'ai une très grande souffrance. Vous n'attendez pas de l'autre de vivre de cette très grande souffrance. Vous lui dites une très grande souffrance. Si lui-même a eu des très grandes souffrances, il va se rappeler immédiatement de sa très grande souffrance. Et alors, à ce moment-là, il sera en harmonie avec vous et ça va vous consoler. Vous serez deux à souffrir. Et le simple fait d'être deux à souffrir, on n'est plus seul. Et ça apaise. Ça soulage, parce qu'on est deux. Est-ce que c'est ça l'expérience ? Voyez, première chose, distinction. Quand je parle de la métaphysique, de la philosophie, je dis que la philosophie commence par l'expérience interne ou l'expérience externe. Où mes sens, mes sensations sont présentes, sont en acte. Pour beaucoup, la philosophie commence par une expérience interne. L'inspiration est une expérience interne. Les savants disent « Oh, aujourd'hui, je suis en état de grâce. » J'espère que vous êtes tous en état de grâce, comme dit l'artiste, pour commencer à faire un peu de philosophie. Et je ne vous ai pas dit hier, si demain matin vous n'étiez pas en état de grâce pour écouter le cours, pas la peine de venir, hein, restez dehors. Non. Vous venez, certains peuvent avoir très bien dormi, être très bien reposés, d'autres pas se reposer du tout, très fatigués, ont une peine énorme de suivre. J'ai envie de dormir. Vous distinguez donc l'expérience au sens fort. C'est une expérience à l'égard d'une réalité autre que moi. Ah, voilà, ça pose des quantités de questions, ça. Une réalité autre que moi. Tandis que l'expérience interne, c'est moi-même. C'est l'état dans lequel je suis. Un état de joie, un état d'obscurité, un état de douleur. Je sais que je ne suis pas libre de chasser complètement cet état intérieur. Je m'en sers. Mais je vais plus loin. Je veux atteindre la réalité extérieure. C'est un homme, une femme, un enfant ou une réalité physique. Je me suis assis après la prière parce que j'avais vu qu'il y avait quelque chose qui pouvait me recevoir. Autrement, j'aurais dégringolé. Il y avait quelque chose à l'extérieur de moi. Et qu'est-ce que c'est que cette chose à l'extérieur de moi qui me permet de m'asseoir, qui me permet d'écrire? Vous voyez, c'est très simple, ça. Le philosophe doit commencer par là. Il doit commencer à réfléchir sur sa manière de regarder l'autre. On a fait tout un cours cette année-ci à Paris. On était à deux. L'expérience de l'autre. C'est très important l'expérience de l'autre. Il y a des gens qui n'ont plus l'expérience de l'autre. L'autre, c'est l'enfer. Ça dit quelque chose. Il y a un philosophe qui a dit ça. L'autre, c'est l'enfer. Oh. Alors, le bonheur, c'est soi. Parce que l'autre me donne l'expérience de mes limites. Tout de suite, en avion, hein. Quand vous montez en avion pour un long voyage et que vous êtes à côté de quelqu'un d'énorme, oh, l'autre. Là, j'ai l'expérience de l'autre. Et si au contraire, je suis à côté de quelqu'un d'extrêmement amaigri, il blesse toute la place. Oui, dans un monde où on voyage beaucoup, l'autre, c'est très souvent celui qui me gêne. J'ai toujours remarqué ça dans les trains où j'étais habitué de faire Paris-Lausanne la nuit. La première chose quand on prenait son train à Paris, c'était de trouver un compartiment où on était seul. Puisqu'on pourrait s'étendre, on pourrait dormir, on serait tranquille. C'est une drôle d'expérience de l'autre. Et quelquefois, dans un compartiment, il n'y a qu'une seule personne. À la rigueur, ça va. Et puis, cette autre personne apparaît comme très gênante. Puisque une fois, je suis monté comme ça, il n'y avait qu'une seule. Puis cet autre, en voyant que j'étais un ecclésiastique, un religieux, a sorti progressivement, ou lentement, progressivement, un poignard. c'était l'autre. L'autre, c'était Poignard. Alors, vous comprenez, je n'ai pas eu beaucoup de repos. Le train n'était pas encore parti. Il y avait deux bouteilles de vin et le poignard. Deux bouteilles de vin, on pouvait se partager. Le poignard, il n'y en avait qu'un. Puis est monté un valaisan. Il a vu un religieux monter à côté de moi. Puis je lui montrais l'autre. Il m'a montré sa main à ce moment-là. C'était une main déchiquetée. Il m'a dit, c'est à New York où j'ai été attaqué par un poignard comme ça. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai un poignard comme ça? Je serre le poignard et je lui en prends le poignard. Alors, il est tellement ahuri de voir le sang qui coule qu'il lâche son poignard et c'est moi qui l'ai. Il a vu l'autre avec le poignard et qu'il a remonté ça tout haut. L'autre a commencé à voir que c'était pas commode. Il avait sa main qui avait eu l'expérience du poignard. Donc l'expérience, c'est très vaste. Ça va jusqu'à la solitude du compartiment, jusqu'à le poignard et la bouteille de vin. Quand je dis que le philosophe doit aller toujours le plus profond, pas n'importe quelle expérience, le plus profond de sa vie, quelle est l'expérience de l'intelligence la plus profonde? Là, il faut chercher. Il y a l'expérience la plus simple. Quelle est l'expérience la plus simple de l'autre? Tu es là. Tu es là. Ceci est. Et puis tu es là. Et l'expérience de l'autre, c'est pas la même que l'expérience, je pense, Descartes. Je pense. Non, je pense, c'est pas la première expérience. C'est pas une expérience de l'autre. C'est au contraire l'expérience de soi, je pense. Donc, je suis. Vous avez appris ça. Et vous avez reconnu que c'était en effet très intéressant. Et c'est curieux, cette expérience de Descartes a joué énormément. Ça a été comme un renversement. Un renversement dans notre philosophie européenne. À partir de Descartes, la philosophie a commencé à branler. Est-ce que ça commence par l'autre? Est-ce que ça commence par soi? Vous voyez, on cherche quelle est la première expérience. Ah, quelle est l'expérience la plus simple, la plus fondamentale? Là, on ouvre les discussions, hein. Avant Descartes, dès le XIVe siècle, il y avait un théologien franciscain anglais qui s'est posé la question: quelle est la première expérience que j'ai? Intellio. Il n'a pas dit cogito, il a dit intelligo, parce qu'il parlait latin. limite de l'ego, c'est l'intelligence. J'intellige. Je pense donc, j'intellige. Et puis comme il était franciscain, il a dit « et amo Socratem ». Intelligo, je pense, et j'aime Socrate. Ah. Donc, il y a deux expériences tout à fait primitives. L'expérience interne, j'intellige, et j'aime Socrate, encore une expérience interne. C'est Occam, 14e siècle. Qui a été le premier à affirmer cette expérience interne. Je dis le premier, non. Le premier, c'est Platon. Platon, cette expérience interne. Platon n'a pas dit « je pense », mais il a saisi des idées. Elles sont premières. Il a saisi ce qu'est l'amour. C'est premier aussi. Bon. Si il ne s'agit plus d'expérience interne, mais d'expérience externe, de l'autre, qu'est-ce que je dirais ? Tu es là, tu existes. Cette table, elle existe, elle est dans le langage où j'affirme ceci est, je suis en face d'une proposition la plus simple qui soit, ceci est. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose de plus simple que ça. Donc votre langage exprime ce que vous pensez, ce que vous expérimentez. L'expérience la plus simple que vous avez, et je dirais en même temps très profonde, ceci est. Vous ne dites pas ceci devient, ceci se meut. Ceci est mu, vous dites ceci est. C'est au fond l'expérience la plus simple que vous pouvez avoir. Ceci est. Quand vous vous réveillez d'un cauchemar, ça peut exister, j'espère que vous n'avez pas eu cette nuit-ci. Vous voyez un cauchemar avec un lion qui vous poursuit, ou un gros chien mâché, le chien du voisin, mauvais. Et vous avez peur. Et vous touchez votre lit. Là de temps en temps, et c'est une expérience qui vous libère du cauchemar. Quand vous étiez gosse et que vous avez un cauchemar, vous criez. Maintenant c'est plutôt rare que vous criez ayant un cauchemar, mais de vous-même vous vous réveillez, vous vous libérez, vous passez du cauchemar à la réalité, qui n'est pas le chien, qui n'est pas le lion qui vous poursuit, qui n'est pas cet homme farouche avec un poignard. Non, réalité simple. Je suis dans mon lit. Il est bon, mon lit. J'ai un oreiller. Il est bon, mon oreiller. Expérience très simple, mais très importante, ça. ces expériences que vous faites souvent, et vous y réfléchissez peu, alors qu'au contraire, elle est le passage du cauchemar imaginaire à la réalité. Ceci est mon lit. C'est très simple, ça. C'est pas compliqué. C'est des expériences humaines. Dormir, se réveiller, avoir des cauchemars. Vous distinguez très bien là l'expérience interne du cauchemar et l'expérience externe du lit. C'est le lit d'abord, puis c'est la chambre. Vous avez cette expérience très simple de ce qui est en dehors de vous, de ce qui est en vous. Et naturellement, vous considérez que ces deux expériences sont vraies. Le cauchemar, il a été réel. Quand vous dites c'est l'imaginaire, mais l'imaginaire c'est moi, et l'imaginaire peut être tellement vrai, tellement fort, que ça m'a secoué profondément, et le gosse a pleuré. Tellement l'imaginaire était fort, était lié aux passions, lié à la crainte. Et puis, quelque chose vous est délivré, vous êtes passé du cauchemar à la réalité. C'est très important, ça, parce que ça montre le réalisme, tout simplement. Nous sommes capables de passer du cauchemar à la réalité. La vie peut être un grand cauchemar pour nous, de temps en temps. La réalité, c'est qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui m'aime. Ah oui. Ah, il y a cette autre expérience. Quelqu'un m'aime. C'est aussi une expérience très importante. Quelqu'un m'aime. Non seulement il est, mais il m'aime. Il y a en lui un regard très spécial sur moi. À son égard, je peux tout lui dire. C'est ça qui fait comprendre que c'est un ami. Je peux tout lui dire. Il ne se moquera jamais de moi. Il aura pitié. Que je puisse à certains moments avoir peur et me réveiller. Tout cela, c'est pour vous indiquer que la philosophie ne part pas de n'importe quelle expérience. Il y a un choix dans mes expériences. Et c'est très vrai. Il y a un choix. Et dans ma vie, je fais toujours des choix d'expérience. Je veux me reposer. Je ferai un choix. Savoir dans tel lieu je me reposer. Je peux me reposer. Et dans tel autre lieu, je ne pourrai pas me reposer. Je le sais. Il y a donc un choix dans l'expérience. De saisir quelle est l'expérience radicale. Posez-vous la question, hein, ça. Il faut que chacun en découvre son expérience radicale. Autrement, on ne peut pas faire de philosophie. Et ça me frappe énormément. C'est que, au point de vue philosophique, on est devant une encyclopédie énorme, un Olympe énorme de philosophes. Je n'ai pas le livre là, mais Merleau-Ponty a fait ce gros travail d'une encyclopédie philosophique. Tous les philosophes avant moi, ils sont nombreux. Commence par l'Inde, l'Asie, le monde hellène, tous ces philosophes, chacun d'eux est philosophe d'une expérience. C'est vrai. Une expérience malheureuse ou joyeuse, chacun d'eux. Quand je lis un philosophe nouveau, je cherche quelle est son expérience, interne ou externe. C'est ça qui m'intéresse. L'expérience externe, il y aura aujourd'hui le doute qui vient s'ajouter. Le doute, c'est une expérience interne. C'est pas objectif le doute, c'est subjectif. Alors on aura des philosophes qui commenceront par le doute, donc par leur subjectivité, en montrant que toute affirmation humaine est relative. Toute affirmation humaine, quand vous dites ceci est, c'est vous qui le dites. Vous étiez dans tel climat particulier, vous avez dit ceci est, et que vous avez dit ceci n'est pas. Encore plus particulier. Parce que quand vous dites ceci n'est pas, c'est que vous cherchiez au café Pierre et que Pierre n'était pas au café. Ça, c'est Sartre. Pierre n'était pas au café. Et donc son expérience, c'est l'absence de Pierre, la négation. Et la négation à tout prix. Et quand il était à la fin de sa vie, la négation à tout prix. Voir quelqu'un d'inconnu, ah non, la négation. Le philosophe de la négation. On peut l'être, l'être ou le néant. La philosophie de la négation. Un gros livre qui est paru sitôt à la Libération. Pour que la négation soit coextensible avec le néant. Et alors on a raconté une bonne blague, mais qui était très jolie, qui était tout à fait française, raconter une bonne blague. Vous la connaissez. C'est le brave monsieur à Paris qui achète chez le boulanger du pain. Il voit l'être et le néant sur le comptoir. Boulanger lit ça. Quand on est familier ou avec le pain, on ne lit pas l'être et le néant. Quinze jours après, même boulangerie, une autre boulangerie, l'être et le néant. Encore sur le comptoir. C'est curieux. Quel est le lien entre l'être et le néant et le pain ? La troisième fois, encore. Alors à ce moment-là, il a craché son doute. Vous n'allez pas me dire, monsieur, que vous lisez l'être néant pour, dans les moments qui sont libres, où vous ne vendez pas votre pain. Alors il éclate de rire. Il dit, mais non, l'être néant, ça pèse 500 grammes. Et comme pendant la guerre, on a pris tous les poids de bronze, il n'y avait plus rien. Il fallait bien avoir quelque chose qui est un poids juste. Il a juste ce poids-là. Vous voyez, la quantité l'emportait sur le néant. C'est vrai que c'est difficile de néantifier la quantité. Néantifier l'être, ça va, parce qu'on pense. Mais la quantité, elle pèse lourd. La néantifier, c'est pas commode. Vous voyez, ça, c'est bon moyen d'entrer dans l'être et le néant. Ça pèse 500 grammes. Il y a quelque chose qui résiste au néant, la quantité. C'est vrai. Le poids. On est donc aujourd'hui avec le doute cartésien qui a pénétré de plus en plus partout. À dire, l'expérience est relative. Je ne peux pas saisir quelque chose d'absolu comme point de départ, puisque un point de départ doit être absolu. Je pars de là. Si vous étiez à douter, et alors c'est pour ça qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tout doit être interprété en fonction des personnes qu'ils connaissent. Donc, avant toute chose, il y a l'herméneutique, l'interprétation. Je dois te dire, compte de ça, je suis dans un climat aujourd'hui où l'herméneutique, l'interprétation, joue un rôle capital. Est-ce que ce n'est pas l'herméneutique qui est première ? L'âge de l'herméneutique. Et donc, toute philosophie est interdite. Toute métaphysique est interdite. Je ne peux pas m'appuyer sur ceci est. Parce que ceci est implique quoi ? Implique mon intelligence et implique la sensation, toucher. Je ne peux pas dire ceci est quand je le vois uniquement. Il y a eu un moment où on parlait énormément des soucoupes volantes. Et c'était intéressant, du point de vue philosophique, de suivre les témoignages des soucoupes volantes. Ça existe ou ça n'existe pas ? Est-ce que c'est purement imaginaire ou est-ce qu'il y a eu vraiment des soucoupes volantes ? On pouvait suivre le témoignage de tous ceux qui disaient qu'ils avaient vu des soucoupes volantes. Il y avait une seule chose : on les avait entendus, on les avait vus. Une seule chose : on ne les avait pas touchés. Tiens, dans aucun témoignage, vous voyez, le toucher n'était pas là. Jamais. On les entendait, on les voyait, mais on ne les touchait pas. Or, le jugement d'existence, ceci est, implique toucher. le sens le plus réaliste, c'est le toucher. C'est très curieux d'avoir des hallucinations du toucher. Ça existe. Elles sont beaucoup plus graves que celles de la vue. Parce que quand on est dans le désert, facilement, on voit des choses qu'on ne voit que dans le désert. Des oasis, la terre. Il y a quelque chose. Les hallucinations du toucher sont rares. Mais ça existe aussi. Alors les soucoupes volantes, même s'il n'y a pas le toucher, peut-être que ça existe. La vue ne vous fait pas toucher ce qui est. Quand vous avez pu voir des réalités certaines, est-ce qu'elles existent, est-ce qu'elles n'existent pas? Il faut les toucher. Ceci est implique toucher. Alors, est-ce que l'herméneutique va jusque-là? Non. Parce qu'elle regarde le langage. C'est le langage qui est premier. Or, pour certains philosophes, le langage est premier. Pour Aristote, commencer une philosophie par le langage, c'est rester dans la dialectique. Le langage conduit à l'expérience du toucher. Et donc, il faut, dans l'expérience première, que ce soit le lien de l'intelligence et du toucher. L'expérience première ne peut être que de l'intelligence et du toucher. Alors là, l'herméneutique se tait. Parce que c'est toujours dans la manière de parler que je peux faire intervenir le point de vue de la signification. Qu'est-ce qui échappe à l'herméneutique? L'expérience de l'intelligence et du toucher. Ça échappe. Quand je dis ceci est, il n'y a que l'intelligence et le toucher. Et quand je dis celui-là est mon ami, il y a l'intelligence et l'amour. Et quand je serre la main à mon ami, quand je lui donne une accolade, quand je l'embrasse, il y a l'intelligence, c'est toi, et l'amour. C'est curieux, l'amour remplace le toucher. Tiens, il y a deux choses qui échappent à l'herméneutique. L'amour, le toucher. L'amour parce que, oui, on sait que l'amour, c'est entièrement subjectif. Je t'aime. C'est moi qui dis ça. Et je ne dis pas du tout que le voisin t'aime. C'est moi. De purement subjectif. Et le primat du subjectif, quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », vous avez donc deux grandes expériences fondamentales. Ceci est « je t'aime ». Et quand il y a ces deux expériences fondamentales, je peux commencer à faire ma philosophie qui repose sur l'expérience interne, je t'aime. Il n'y a aucune expérience aussi subjective, aussi personnelle que celle de l'amour à l'égard d'un être humain. C'est pas au petit toutou que je dis je t'aime. Je peux pas commencer ma philosophie par l'amour du chien. Ce chien, il est ravissant, il est merveilleux. Ma philosophie va commencer par ça. Non, c'est à l'égard d'une personne humaine. Je t'aime. Donc, il n'était pas si bête, Occam. C'est-à-dire qu'il y avait de premier dans la philosophie, intelligo et amo Socratem. C'est amo Socratem qui a sauvé Occam. Parce que, en disant j'aime Socrate, il acceptait quelque chose d'extérieur à lui. En disant, ce qui est de premier, c'est intelligo, c'était lui. Il y avait lui et Socrate. Ils étaient deux. C'était mieux que dire cogito ergo sum. Il faut mettre ça en parallèle, c'est très intéressant. Occam, Descartes. Descartes a oublié amo Socratem. Il a oublié l'expérience de l'amour. Il est resté dans son cogito uniquement. Et n'a vu que ça. On a donc deux expériences fondamentales qui échappent à l'herménie, à l'interprétation. L'expérience, ceci est. Parce que c'est une relation directe de mon intelligence à l'égard de la réalité. Et c'est une relation directe de mon intelligence liée à l'amour à une personne. Et c'est à l'égard de ces deux expériences fondamentales. Cherchez et mettez toutes vos objections à l'égard de cela. Vous verrez que ces deux expériences résistent à toute objection. Elles sont fondamentales. Elles sont premières. Ceci est où je suis. On gardera pourquoi je ne dis pas je suis. Je dis ceci est. Je t'aime. On dit ça à l'ami. Je t'aime. Toute philosophie doit regarder ce qui est et celui qu'on aime. Si je ne regardais que ce qui est, elle serait incomplète. Parce que l'amour intervient et me permet de toucher une personne. Et grâce à l'amour, cette personne, elle m'est intimement reliée. Et l'expérience que j'ai de cette personne est unique. Elle est personnelle. C'est intéressant de voir que mon jugement présent dans cette expérience de ceci est, mon jugement affectif est présent dans l'affirmation à un ami, je t'aime. nous allons encore revenir sur ces deux types d'expériences pour voir qu'il n'y en a pas d'autres. Et qui permettent alors d'entrer dans une philosophie de l'être sans oublier l'amour de l'autre.